La première,
9h-11h,
Entrée sans frapper.
Notre invité ce matin dans Entrée sans frapper, on est vraiment heureux de le recevoir, c'est Joseph Chevanec. Bonjour Joseph Chevanec.
Bonjour à tout le monde, merci de m'accueillir.
C'est avec plaisir. Alors vous êtes en direct avec nous de Paris. Vous publiez, Joseph, Voyage en Autistan, chronique décarnée du monde. Alors pour les gens ici en Belgique qui ne vous connaîtraient pas encore, je vous replace un petit peu, Joseph. Vous êtes docteur en philosophie, écrivain. Vous êtes né le 2 décembre 1981. On va en parler le même jour que Britney Spears, de parents tchèques. Et alors vous avez vécu une scolarité difficile, hein, dû à votre autisme. Vous êtes une personne avec autisme Asperger qui va être diagnostiquée assez tard, d'ailleurs on va en parler avec vous. Vous avez obtenu par la suite un diplôme de sciences politiques à Paris, vous êtes devenu hyper polyglotte, vous parlez un tas de langues absolument improbables, et puis il y a 4 ans vous avez commencé à éditer, vous avez édité Je suis à l'Est, savant et autiste, un témoignage unique qui était un vrai grand témoignage, et peut-être l'un des seuls grands témoignages écrits et travaillés sur l'autisme en France. Vous avez ensuite écrit Éloge du voyage à l'usage des autistes et de ceux qui ne le sont pas assez. Il y a eu de l'amour en Autistan. Et aujourd'hui, vous publiez Voyage en Autistan, chronique des carnets du monde, puisque vous, Joseph Chevanec, vous travaillez tous les dimanches sur Europe 1 avec votre chronique dans les carnets du monde, qui est une émission qu'on aime beaucoup. Et vous racontez vos voyages et en quoi les voyages, c'est finalement la santé. C'est ça ?
Tout à fait, tout à fait. C'est en voyage que l'on a la chance de rencontrer des personnes extraordinaires. Et en tout cas, pour ma part, c'est ce qui me maintient en vie. Parce que avec les fatigues et les excès de travail qu'il peut y avoir, le soir, ce qui me remonte le moral, c'est de songer à tous les visages de personnes extraordinaires que j'ai pu rencontrer. Mon dernier voyage, pas plus tard qu'hier, c'était dans une école de près de Namur. Et j'ai rencontré des gens extraordinaires.
Vous étiez en Belgique ?
Tout à fait, hier.
Écoutez, on ne le savait même pas. Vous voyez ? Et ça, c'est tous vos voyages, vous en parlez. Il y a dans ce livre ici 44 voyages finalement qui vont vous emmener mais absolument partout sur la planète. Et il y a quelque chose d'assez dingue, Joseph Chevanec, c'est que la plupart des gens peuvent voyager aux quatre coins du monde sans rencontrer personne. Oui, ils vont adresser la parole à des gens. Mais vous, ce qu'on constate dans vos voyages et ce qui est incroyable, c'est que vous rencontrez des gens, que vous faites ce qu'on appelle des amis durant vos voyages.
Et oui, parce que dans beaucoup de pays du monde, on vous accueille. L'hospitalité n'est pas un vain mot dans beaucoup de pays du monde, surtout quand vous venez de loin. Et je pense le fait d'être bizarre de toute façon, je pense que cela m'aide peut-être, parce que je suis habitué un peu à être vaguement ridicule, donc ça ne m'entrave plus tellement peut-être, si j'ose dire.
Alors vous le voyez, Joseph Chevanec, c'est vraiment, il y a de l'érudition chez Joseph Chevanec, il connaît tout sur tout, mais il y a aussi un sens de l'humour absolument incroyable. J'aimerais qu'on écoute pendant quelques secondes une de vos chroniques, un de vos voyages en Autistan, c'était sur Europe 1, chronique du 20 mars, où vous parlez des émanations de la circulation.
Durant mon enfance, alors même que j'étais très très sélectif sur le plan alimentaire ou olfactif, certaines odeurs ou certains goûts m'attiraient. Par exemple, j'ose à peine le dire, l'odeur des gaz d'échappement. L'un des plus intéressants, c'était celui de ces gros cars noirs et jaunes qui circulaient à travers la Suisse, les cars postaux de la Suisse. Et lorsque vous descendiez de l'un de ces cars en pleine nature, on redémarrait. Marrant, le moteur avait non seulement un bruit divin, mais émettait également un nuage de gaz avec une odeur que je n'oublierai sans doute jamais.
Alors, votre livre, Joseph Chevanec, Voyage en Autistan, je trouve qu'il tord le cou à un tas d'idées reçues, bien sûr, que nous avons sur les personnes avec autisme. Le premier, c'est ce dont nous venons de parler. A priori, nous avons une image de la personne avec autisme renfermée sur elle-même, presque mise dans une boîte. Et là, par ce livre, vous nous expliquez exactement le contraire. Vous m'expliquez que c'est moi qui suis dans la boîte et vous qui vous ouvrez aux autres.
Disons que l'objectif, c'est que tout le monde puisse avoir une vie digne dans la société, pas dans une petite boîte, hein, autiste ou non-autiste d'ailleurs. L'autisme concerne beaucoup de monde, en Belgique comme ailleurs. Hein, c'est environ 1% de la population. Sans vouloir être taquin, en Belgique, il y a plus de personnes autistes que de personnes dans la communauté germanophone. Hein. Donc je ne veux pas ajouter encore un étage aux problèmes linguistiques et autres. Mais voyez-vous, ce n'est pas une question marginale. Hein. Deux, trois pandas au fin fond de leur cage, non, ce n'est pas ça. Hein. L'autisme concerne beaucoup de monde. Hein. Et qu'est-ce qu'on va faire pour ces enfants, mais ces adultes aussi, ou ces personnes âgées? Je pense que nous avons tout à gagner de permettre à chacun de développer ses talents.
Quand est venue, Joseph Chovanec, l'idée d'associer l'autisme à un pays que vous avez dénommé l'Autistan? Quand est-ce que vous avez fait cette connexion entre ce qu'on appelle une pathologie, hein, dans la société normative, on va parler du mot normal, vous le remettez vraiment en cause, mais quand est-ce que vous avez pensé à associer ça à un pays?
Oh, c'est un peu l'idée est venue progressivement, c'est un jeu, hein, ce n'est pas sérieux si j'ose dire. Mm-hmm. Après tout, les Chinois ont la Chine, les Belges ont la Belgique, on pourrait imaginer par dérision un pays pour les autistes, non? La terminaison Stan, autistan, quoi, c'est pour donner un petit parfum d'Asie centrale, pour faire rêver, quoi. Vous voyez, j'aime beaucoup un peu les routes d'Asie centrale pour toutes sortes de raisons. Mais aussi parce que je crois que ça sonne mieux que Autiland, par exemple. Je trouve que Autiland n'est pas très joli.
Non, Autistan, je trouve que le mot est absolument, absolument merveilleux. Alors, on va parler avec vous de tous ces voyages. Hein. L'Asie centrale est vraiment un des cœurs. Hein. Vous aimez l'Iran, par exemple. C'est visiblement un de vos pays préférés au monde, avec l'Éthiopie, etc. On va parler de vos voyages, bien sûr. Mais vous dites une phrase qui est très importante. Vous dites, moi, j'aime les voyages parce que en voyage, on cesse d'être bizarre. Alors pourquoi est-ce qu'on est bizarre chez nous ?
Regardez, j'ai reçu il y a quelques jours une lettre d'une japonaise autiste. Une lettre écrite en français sans la moindre faute d'orthographe ou de grammaire, hein, sur 5 pages. Et elle m'expliquait dans cette lettre qu'elle comprenait beaucoup moins bien les Japonais non autistes que les Européens autistes. Hein. Et je trouvais ça très intéressant. Voyez, la différence issue de l'autisme entre en résonance d'une certaine façon avec la différence liée aux cultures ou aux langues. Hein. Et on peut jouer l'une contre l'autre. Par exemple, si vous êtes une personne autiste belge, vous serez bizarre en Belgique, mais si vous allez en Mongolie, comme l'a fait l'un de mes amis autistes belges, eh bien là-bas, vous ne serez, je ne dirais pas, considéré comme bizarre. Vous serez un occidental ou un honorable visiteur d'un pays lointain. Voyez. Donc on peut jouer l'une des différences contre l'autre. Et ça donne des situations extrêmement rigolotes. Je crois que certaines des personnes, par exemple en Éthiopie ou en Iran que j'ai rencontrées, croient que tous les Européens sont comme moi, c'est-à-dire parlent très lentement, regardent de face au bizarre, etc. Donc, bon, parfois ça donne lieu à des malentendus plus difficiles à lever. Par exemple, parfois en Belgique, comme je parle un peu comme le regretté père Dardenne, les gens croient que j'ai les mêmes habitudes que lui au niveau de la boisson, par exemple, ce qui n'est pas le cas. Donc, parfois, il y a des malentendus aussi, mais ça fait partie des rigolades communes. Hein.
Mais comment vous connaissez le père Dardenne? A priori,
il
vous habitez à Paris.
Pas.
Excusez-moi, mais je pense pratiquement 100% des Français. Le père Dardenne, c'est vrai qu'il y a une similitude. Alors, on vous retrouve dans quelques instants, Joseph Chovanec. Je pense que les gens vous ont déjà découvert. Hein. Vous comprendrez que c'est à la fois un grand mélange d'érudition, de passion, de tendresse. Aussi énorme dans ce qu'il écrit, et puis d'un humour absolument, absolument décapant. Je vous aime beaucoup, Joseph Chovanec, et c'est pour ça que j'avais très envie de vous rencontrer. Et c'est chose faite ce matin, j'en suis très heureux. On vous retrouve dans quelques instants, Joseph, pour parler de Voyage en Autistan, chronique des carnets du monde. Ça apparaît chez Plomb, et c'est votre chronique, hein, chaque semaine, le dimanche à 11h, sur Europe 1.
La première, entrée sans frapper.
Nous sommes toujours ce matin avec Joseph Chovanec, Voyage en Autistan, c'est le livre qu'il publie chez Plon. 44 voyages qui sont autant de chroniques qu'il a faites hein, sur Europe 1 dans l'émission Les Carnets du Monde. Joseph, vous racontez absolument vos voyages, les personnes que vous rencontrez et toutes ces histoires terminent souvent par une petite morale, par une citation où finalement vous nous expliquez votre monde à vous hein, et la manière dont vous percevez aussi le nôtre. Et quand je dis le nôtre, je parle celui de ce que la société appelle la normalité. Qu'est-ce que vous avez, vous, comme rapport à ce mot « normalité », Joseph ? Alors que toute votre vie, j'imagine qu'on vous a dit que vous n'en faisiez pas partie.
Vous savez, les gens qui se croient normaux sont en fait très bizarres. Hein. Ils ont parfois des lubies. Chez nous, on appelle ça les pathologies non autistiques. Hein. Je ne sais pas si on en guérit. Je n'ai pas contre de médicaments pour guérir du non-autisme. Hein. Vous voyez, mais vu que la part du marché est très importante, ça devrait bien intéresser un labo ou deux. Non, je ne sais pas à discuter. Mais en tout cas, par exemple, quand vous regardez combien les adolescents veulent avoir la même marque de vêtements que telle ou telle célébrité, dont j'ignore tout. Hein. Je ne connais que Britney Spears. Voilà, donc c'est assez restreint. Mais c'est quand même un peu pathologique, non, que d'avoir des crises de colère et d'exiger de ses parents telle ou telle marque de vêtements. Bon, ça ne risque pas de m'arriver. Hein. Je n'y connais rien en vêtements. J'ai toujours les mêmes chemises depuis le siècle dernier. Hein. D'ailleurs, c'était sans doute pour ça que mon premier employeur était un aveugle de naissance, ça peut aider à certains égards.
À vous engager. Alors, ce mot normalité, on va quand même raconter un petit peu. Vous avez acquis le langage vers 6 ans, hein, ce qui était avec un retard relativement considérable. Oui. Mais il n'y a pas de diagnostic qui a été posé chez vous. En fait, vous avez été interné hein, quand vous aviez 18 ans, camisole chimique. Donc, on vous a bourré de médicaments en croyant à une schizophrénie, etc. Et vous n'avez été diagnostiqué autiste avec tendance Asperger qu'à 21 ans. Comment ça se fait qu'une société évoluée comme la société française a failli détruire votre vie.
Mais malheureusement, ça arrive chez beaucoup de personnes autistes. Hein. Même aujourd'hui, on a eu un retard absolument gigantesque dans la prise en compte de l'autisme, qui continue d'ailleurs. Hein. On est encore loin, on va dire, de la connaissance qui prévaut au Canada ou dans des pays, on va dire, d'Europe du Nord. Hein. Au Canada, l'employé au bagage de l'aéroport, si vous lui parlez de l'autisme, il sait de quoi il s'agit. Il est capable de vous en parler. Aussi. Hein. Donc on a un vrai travail à mener au niveau de l'inclusion scolaire. Je sais qu'en Belgique, du moins francophone, il y a toute une discussion autour de l'inclusion ou de l'intégration et je crois que la ministre doit trancher vers l'automne. On essaye que ce soit vers plutôt l'inclusion. Hein. Et donc il y a toutes sortes de débats qui sont toujours en cours. Je suis à titre personnel convaincu que la place de tous les enfants autistes est à l'école et la place des personnes adultes autistes est soit dans l'emploi, soit dans la vie en général. Hein. Voyez, ce n'est pas, on ne vise pas à créer des ghettos hein, spéciaux pour aux gens autistes. Ça, c'est un échec terrible hein, que d'entrer dans cette voie-là. En tout cas, voyez, tant qu'on n'aura pas, par exemple, de formation des enseignants à l'autisme, eh bien, les choses se passeront difficilement, douloureusement. Hein, c'est inévitable.
Évidemment. Alors, on va aller sur vos voyages, Joseph Chovanec, parce qu'on n'a pas encore voyagé beaucoup. On va aller, par exemple, quand on parlait de normalité et de pathologie ou de handicap, comme on dit dans la société, vous, toute forme de division semble vous hérisser le poil, notamment celle des lieux d'aisance. C'est ce que vous racontez dans les voyages en Autistan. On s'étonne qu'il y ait homme-femme et alors handicapé et valide aussi hein, dans les toilettes.
Et comment vous divisez lorsque vous essayez de diviser les toilettes entre toilettes pour valides et toilettes pour personnes handicapées, eh bien, est-ce que vous divisez encore une fois entre hommes et femmes handicapés ou pas, voyez, ou alors est-ce que vous créez une sorte de, entre guillemets, troisième sexe, hein, les personnes handicapées, et il n'y a pas de réponse univoque, hein, c'est très intéressant, quoi, c'est toujours, le système est toujours bancal. Hein,
et vous dites une fois de plus que c'est pas le cas dans d'autres parties du monde où il y a des parties du monde monde où les toilettes ne sont tout simplement pas séparées, ce qui vous paraît plus cohérent.
Mais si vous rendez toutes les toilettes accessibles aux personnes handicapées, il n'y a plus de nécessité de séparer entre toilettes pour personnes handicapées et pour personnes jugées valides, hein, voyez, et ça profitera à tout le monde. C'est toujours la même histoire. Si vous êtes de petite taille et que vous prenez le bus, vous ne pourrez pas mettre votre valise tout en haut. Voyez. Par contre, si vous êtes de grande taille, vous pourrez mettre la valise tout en haut, mais vous ne pourrez pas vous asseoir confortablement. Donc vous serez handicapé dans un cas comme dans l'autre. Quand on est de petite taille, on est handicapé à cause des valises, et quand on est de grande taille, on est handicapé à cause des sièges qui sont trop étroits. Voyez. Donc je pense que la solution serait de créer un bus où il y aurait à la fois de la place pour les bagages et à la fois de la place pour les genoux. Et c'est possible, ça existe déjà. C'est ça ce qu'on appelle l'inclusion.
Hein. C'est ce qu'on appelle l'inclusion.
Le bus qui s'adapte aux gens qui sont de petite taille ou de grande taille selon les cas. Et je pense que c'est un régime beaucoup plus efficace que de, par exemple, exclure les gens de petite taille ou de tenter de les guérir de leur petite taille par injection d'hormones ou que sais-je. Vous voyez, ça mène à des aberrations très très vite. Hein.
Alors, comment ça se fait, Joseph, on se pose la question, bien évidemment, que vous aviez du mal à prendre le bus, que le langage est venu tard, qu'on a pensé à la schizophrénie, etc. Comment ça se fait qu'à un moment, j'imagine, parce qu'il doit y avoir quelque part un déclic, vous êtes devenu l'homme que vous êtes aujourd'hui, à savoir qui ose voyager, etc. etc. On ne peut pas lire le livre sans se poser la question.
C'est-à-dire, c'est un apprentissage long, progressif et lent aussi. Vous voyez, il n'y a pas d'action miraculeuse hein, qui changerait en une minute les gens. C'est plutôt par les apprentissages. Prenons un exemple. Je suis, comme beaucoup de personnes autistes, angoissée dans les magasins. Bon, ça remonte à l'enfance, hein, parce que dans un magasin, il faut savoir comment procéder. Il y a du bruit, il y a du monde, c'est parfois très pénible. Bon, vous me direz, vous savez faire très bien, mais vous ne savez peut-être pas être à l'aise dans le grand marché aux chèvres de Nizwa, au Sultanat d'Oman. Là, vous serez angoissé, vous serez dans la même situation qu'un enfant autiste dans un magasin dans sa ville d'origine, voyez. Par contre, vous pouvez apprendre à gérer le grand marché aux chèvres de Nizwa au Sultanat d'Oman. Et une fois que l'apprentissage aura été fait, eh bien vous serez beaucoup plus à l'aise. Et c'est exactement ce qu'on vise avec les personnes autistes. C'est par l'apprentissage, la familiarisation avec des compétences à la fois sociales, linguistiques et autres, qu'on peut de beaucoup améliorer la qualité de vie. Et d'ailleurs, maintenant en Angleterre, c'est la bonne nouvelle du mois, il y a une chaîne de magasins qui aura des horaires d'ouverture spéciaux autistes. Donc, bien sûr, ils pensent dans une optique business, hein, c'est pas la Croix-Rouge. Mais si les résultats positifs sont là, peu importe, je dirais, la motivation, vous voyez, c'est un peu ça. Et je crois qu'on a tout à gagner, hein, y compris sur un plan purement financier ou business. Hein, donc,
évidemment, évidemment. Oui. Joseph Chevanec, vous êtes notre invité aujourd'hui dans Entrée sans frapper, Voyage en autistan. C'est un livre qui ne peut que vous conquérir, quoi. On part aux quatre coins du monde, déjà, on voyage réellement, et on voyage pas, enfin, on va pas à Barcelone, quoi, hein. On va dans des endroits
surtout
pas ça. Parlez pas de malheur. Ah non, alors ça, il y a même une conférence où vous expliquez, Joseph Chevanec, par exemple, vous pouvez aller soit à Barcelone, soit un petit village d'Iran dont on a absolument jamais entendu parler. Vous dites à Barcelone, il y a tout ce qu'il faut, alors qu'en fait, il faut aller dans ce petit village d'Iran. Alors, bien sûr, ça fait beaucoup plus peur, mais c'est comme ça. Et donc, les grandes villes touristiques, vous, ça ne vous intéresse absolument pas. Et c'est justement hein, le monde que l'on ignore, qu'on découvre avec vous, Joseph Chevanec, et surtout, tous les mécanismes mis en place et toute la manière dont vous faites la lumière sur la stupidité du monde et la stupidité de ce qu'on appelle aussi la norme. On va en continuer d'en parler avec vous. Ce sera dans quelques poignées de secondes, Joseph. À tout de suite.
La première... Entrée sans frapper.
Joseph Chovanec est toujours avec nous. Vous connaissez peut-être ses chroniques dans les carnets du monde. Voyage en Autistan, eh bien, elles sont publiées aujourd'hui chez Plon. C'est absolument passionnant, c'est exotique parce que je peux vous dire qu'il nous emmène dans des endroits dont on ne soupçonne même pas l'existence. Sauf que lui, il y est vraiment allé. Et c'est là qu'il a, qu'il va nous donner des leçons de vie absolument colossales, puisque ces 44 voyages souvent terminent par des petites morales, des petites citations. Et ne me laissez surtout pas oublier, Joseph, à la fin de cette interview, si je l'oublie, de citer à nos auditeurs la dernière phrase de votre livre, donc ne me laissez pas oublier. J'aimerais qu'on aille à la page 83 du bouquin, et ça, on comprend que les voyages, effectivement, nous apprennent tout, et qui dit voyage dit langue, bien évidemment. Alors vous, Joseph, vous êtes une espèce de surdoué des langues, hein, vous êtes hyper polyglotte, vous parlez français, tchèque, anglais, allemand, persan, hébreu, éthiopien, arabe, araméen, chinois, azerbaïdjanais, sanskrit, et un peu d'estonien. C'est ça?
Je ne sais plus, je suis alzheimérien ces derniers temps.
Mais soit. Et donc, page 83, vous expliquez, je vous lis. Un jour, quelqu'un m'avait demandé par email comment traduire en amharique, c'est en éthiopien, la fameuse expression que l'on trouve partout en Amérique, « no trespassing », ce qui veut dire « interdiction d'entrée », avec différentes menaces associées, bien évidemment. J'avais répondu que vouloir traduire cette phrase était idiot. En Éthiopie, les gens souhaitent que vous entriez chez eux, partagez avec vous des moments pour manger et pour discuter. C'est très joli, hein, ça dit beaucoup sur le
monde.
Mais
évidemment, ça se passe comme ça dans beaucoup de parties du monde. Si vous venez, par exemple, de Belgique et que vous êtes perdu dans un coin d'Asie centrale et vous avez faim et soif, bien vous rentrez dans une maison au hasard. Vous dites bonjour, je viens d'un pays lointain et on vous accueille. Vous pouvez passer la nuit. C'est évident, hein. J'ai un ami, un vieux monsieur au Manet, qui m'avait dit « Je ne comprends pas cette manie des Occidentaux d'avoir des hôtels. Nous, on n'a pas besoin d'hôtels. Quand je suis en voyage, je rentre dans une maison au hasard et je passe la nuit. » Voilà. C'est un autre monde.
C'est un autre monde. Il y a d'ailleurs un chapitre sur le plus bel hôtel à 1000 étoiles et à des millions d'étoiles que vous avez quelque part dans le monde. Vous dormez à la pleine lune chez un ami à vous. C'est un passage absolument sublime, effectivement, Joseph Chovanec. Alors, pourquoi ? Alors ça, j'aimerais bien que vous me l'expliquiez. Vous savez que le monde entier aujourd'hui a peur de l'Asie centrale. Hein, c'est le diable, c'est ce qu'on a appelé l'axe du mal, l'Iran, etc., etc. Pourquoi nous avons peur ? Pourquoi vous êtes attiré ? Et quand je dis nous avons peur, je ne m'inclus pas, bien évidemment. Mais pourquoi le monde a peur d'aller là ? Pourquoi les gens n'y vont pas, tout simplement ? Et pourquoi vous, c'est ça qui vous a attiré ?
Oh, mais je crois qu'il y a des raisons irrationnelles, hein. C'est un peu les fameuses pathologies non autistiques, hein, qui reviennent, je dirais. Mais vous savez, j'ai une amie qui est anglaise, qui s'appelle Jessica, et qui vit à Mogadiscio, hein. Donc, voyez. Et la seule fois où elle a été, pardonnez, agressée, c'était lors d'un passage en Europe entre deux avions, hein. Donc, voyez, le danger n'est pas forcément là où on le croit, hein. Et en tout cas, pour ma part, j'ai passé pas mal de temps en Asie centrale, en Iran, et je n'ai jamais eu de soucis, au contraire. Donc, bien sûr qu'il peut y avoir des lieux plus périlleux que d'autres, mais je pense qu'en termes de péril et hélas de terrorisme, les villes européennes sont parfois bien plus dangereuses que certains coins d'Asie. Donc, je pense que ce qui m'attire avant tout, c'est la richesse du patrimoine culturel, le fait que ces gens-là soient polyglottes. Et je pense être polyglotte, ça ajoute en démocratie, en humanité, etc., en facilité d'accueil de l'autre. Et le fait tout simplement de pouvoir découvrir des richesses un peu cachées dont j'ignorais tout durant, par exemple, mon enfance. Voyez. Donc c'est une sorte d'émerveillement permanent. Et il y a une chose très particulière, peut-être plus autistique, qui me fascine en Asie centrale, ça pourrait paraître bizarre, mais c'est la pureté de l'air. Hein. Comme l'air est très sec, c'est éloigné des océans. Hein. Donc l'air est très sec et le ciel a une teinte très particulière, un bleu très spécial qu'on ne retrouve pas ailleurs, du moins je ne crois pas. Ça me rend un peu dépendant. Hein. C'est comme une petite drogue.
Oui, voilà. C'est ça, oui. Et bien justement, vous me lancez, hein, sur la fin de votre livre. L'ultime voyage, il s'appelle « Où l'on regarde le ciel », Joseph Chovanec. Et vous expliquez qu'à partir de 4 000, 5 000 mètres peut-être dans un avion, l'occasion. La couleur du ciel devient proprement extraordinaire, avec une luminosité sans pareil, comme si la lumière nous venait plus pure. Et vous dites, pourquoi je le sais ? Le critère le plus sûr en est que subitement, face à un tel ciel, les Occidentaux les plus endurcis, ceux dont les yeux sont les plus obstinément rivés sur un écran de téléphone, se figent et, ô miracle, lèvent la tête, le temps comme suspendu. Est-ce que ça veut dire que ce que vous appelez les non-autistiques, vous, Joseph Chovanec, sont des gens qui regardent trop leurs pieds, pas assez le ciel, trop la réalité et pas assez ce qu'on pourrait faire de notre vie ?
Vous savez, notre attention est détournée par toutes sortes de petits gadgets qui n'ont pas d'intérêt ou qui n'apportent rien. Il faut acheter le dernier téléphone ou GSM à la mode, il faut acheter les vêtements à la mode, etc. Et je pense que quand on entre dans ce système-là, on est complètement détourné de ce qui est le plus intéressant, ce qui apporte le plus. Par exemple, la poésie ancienne. Voyez, et donc, c'est je crois un défi aussi pour notre temps de savoir, je dirais, avoir une appréciation de ces petits trésors qu'on oublie parfois. Hein. Voilà. Et je suis convaincu à ce titre qu'en voyage, on peut peut-être retrouver cela, hein, être déstabilisé dans nos certitudes et donc de pouvoir s'ouvrir à autre chose. Je pense que peut-être la phrase à laquelle vous faisiez allusion, c'était cette phrase que j'aime beaucoup, que j'ai mise à la fin du livre. Est-ce que je peux la citer maintenant ou vous souhaitez ?
Avec plaisir.
C'est une phrase qui est donc devenue un peu un slogan du soufisme d'Asie centrale. Elle est inspirée d'un passage assez connu du poète Jalaluddin Rumi. Et donc, on peut la citer comme suit. « J'ai cherché le bien-aimé partout à travers le monde. Il m'attendait dans ma propre maison. » Donc, dans son fort intérieur, voyez ça l'idée. Et je pense que c'est une phrase qui laisse songeur par sa concision et par sa beauté aussi.
Absolument, elle est absolument sublime et je voulais effectivement terminer sur elle. J'ai cherché le bien-aimé partout à travers le monde, il m'attendait dans ma propre maison. Est-ce que vous, Joseph, parce que c'est comme ça que vous concluez votre livre, est-ce qu'aujourd'hui, à 35 ans, parce que vous avez 35 ans...
Je vieillis.
Ah bah écoutez, vous inquiétez pas, moi aussi. Est-ce qu'à 35 ans, vous avez des certitudes ? Où tout n'est que doute.
Je pense que au niveau, on va dire, des affirmations du type aujourd'hui il pleut, etc.
Oui, non, mais à part celle-là.
Ça, le doute s'installe naturellement. Mais je commence à avoir un certain nombre de certitudes sur, par exemple, ce qui est important, du moins pour moi, et sur ce que l'on peut rechercher durant son existence.
Et je pour pense vous, c'est quoi que,
L'émerveillement qu'on peut faire soit par sa propre quête, soit en rencontrant des gens extraordinaires. Et je pense que rencontrer des gens extraordinaires, ça permet de réenchanter le monde. Vous parliez de certitude, en voici une que je crois avoir acquise. C'est qu'il y a parmi nous des gens, parfois marginaux, parfois qu'on méprise, qui sont capables de réenchanter le monde tellement triste parfois dans lequel on est imbibé, du moins dans lequel on est jeté, quoi, voyez. Et je suis convaincu que mettre en valeur ces personnes-là, c'est une chose d'utilité publique. Ça ne peut que profiter à tous.
Joseph Chovanec, vous êtes à vie le bienvenu dans cette émission, je vous le dis.
Merci, c'est très gentil. Merci pour votre accueil. Le légendaire accueil belge se confirme.
Ça va,
merci
alors.
Beaucoup à vous.
Voyage en autistan, chronique des carnets du monde, c'est chez Plon. Donc, vous pouvez aussi réentendre tout cela sur l'antenne de Europe 1. Merci beaucoup, Joseph, d'avoir été notre invité.
Merci beaucoup. Belle journée à tout le monde.
À vous aussi.